9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Charlène Biondi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez Décoder, une contre-histoire du numérique aux éditions Bouquin. Décoder, vous l'écrivez avec un trait d'union entre dé et coder. Pourquoi ?
Par un jeu de mots sur le code informatique, évidemment. Et aussi parce qu'il s'agit de décoder pas seulement la technologie, donc pas seulement de défaire les codes informatiques, mais de décoder nos idées reçues à son sujet.
Dans C'est arrivé demain, on essaye de comprendre ce que la révolution numérique change vraiment, quelles conséquences elle a pour la société. On veut savoir au fond ce qui nous attend. Vous dites que la grande transformation numérique n'est pas technologique comme on le croit. Alors elle est quoi ?
Elle est avant tout culturelle, et je dirais même plus que culturelle. Elle est métaphysique. Alors c'est un gros mot, ou un grand mot en tout cas. Mais ce que je suggère, c'est qu'il faut dépasser les discours dans lesquels on assimile la technologie à son industrie, donc à la Silicon Valley, et aux menaces qu'elle ferait peser. Ce que j'essaie de faire avec Décoder, c'est de montrer que la transformation numérique, c'est avant tout une transformation dans le regard qu'on porte sur les choses. C'est-à-dire que la technologie est devenue tellement intime, elle est tellement intégrée à nos vies, à nos pratiques, au quotidien, qu'elle n'est pas seulement un appauvrissement des choses, elle n'est pas seulement une menace, elle est quelque chose qui vient modeler notre rapport au monde, modeler notre regard, et avec lui le sens qu'on donne à l'existence. Et ça, ça a des conséquences essentielles, très profondes pour l'ordre social, pour l'ordre politique, et éventuellement pour nos régimes.
Vous voulez dire qu'elle a sa logique propre, la révolution numérique, et qu'au fond, c'est en train de devenir notre logique à nous aussi.
Je veux dire en tout cas que sa logique ne se réduit pas à une logique économique.
Elle change nos schémas de pensée, elle change donc notre conscience collective.
Il y a beaucoup de discours, on entend très souvent des discours qui assimilent la transformation numérique à une autre révolution industrielle. En fait, moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça. Je pense que ce n'est pas une révolution industrielle, je pense que c'est une révolution scientifique. Et en fait, ce que je montre dans le livre, c'est que les révolutions scientifiques, ça précède à la fois les révolutions industrielles et les révolutions politiques. Et par exemple, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des grands historiens des sciences qui montrent que au XVIIe siècle, la physique de Newton est à l'origine des découvertes qu'a fait Watt et de la machine à vapeur, qu'en gros, cette révolution scientifique dans le domaine de la physique et des sciences a donné lieu à une révolution industrielle des techniques et qui, elle, a aussi donné lieu par la suite à une révolution politique. Et donc, la révolution française, en fait, est la fille, pas seulement de la révolution industrielle, mais de la révolution scientifique qui la précède. Moi, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que c'est de ça qu'il s'agit avec le numérique. Au point de vue industriel, on le voit, on le sait, on le discute partout. C'est cette fameuse transformation numérique à laquelle ça donne toutes les entreprises aujourd'hui. Au point de vue politique, eh bien, en fait, c'est une grande interrogation qui se pose. Et la question, donc, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la révolution politique qui découlera de cette révolution qui est scientifique et déjà maintenant industrielle ?
Alors, sur le plan politique, pour l'instant, on voit la transformation numérique associée à la surveillance de masse, au renforcement des multinationales au détriment des États, aux fake news, aux réseaux sociaux qui renforcent les individus, eux, contre les États et qui menacent la démocratie, en tout cas la démocratie telle que nous la pratiquons en Occident depuis 2 siècles. C'est un peu court tout ça, d'après vous ?
Alors, c'est à la fois un peu court et pas court. C'est pas court dans la mesure où tout ça est très juste, tout ça est très vrai, et c'est des effets immédiats de ces nouvelles pratiques, et notamment et du pouvoir que ces nouvelles technologies confèrent à certains acteurs qui les ont inventées, aux grands innovateurs qui sont essentiellement aujourd'hui situés dans la Silicon Valley et puis de plus en plus en Chine. Et donc c'est important de le dire, et c'est évidemment, d'ailleurs je crois que je le dis dès l'introduction du livre, c'est évidemment nécessaire de réguler les excès qu'elles peuvent engendrer. Mais on peut pas s'arrêter là, et notamment je pense que c'est une erreur à la fois conceptuelle et une erreur dans la lutte pour la justice sociale de se limiter à ces effets, enfin de limiter notre analyse à ces effets négatifs de la technologie numérique. Parce que elle n'est pas qu'un appauvrissement, je l'ai déjà dit. Et quand on entend par exemple que l'intelligence artificielle nous rendrait moins intelligents, que les réseaux sociaux empêchent le débat public ou que Tinder réduit la rencontre amoureuse à sa dimension purement transactionnelle, toutes ces affirmations sont évidemment vraies, mais elles sont tout autant fausses. Parce que je pourrais vous opposer que l'intelligence artificielle, elle permet aussi de faire des progrès absolument inespérés dans la recherche en médecine, dans la recherche fondamentale, qu'elle démultiplie la créativité. On vient de le voir, il y a un nouveau logiciel open source qui fait des merveilles en termes de créativité visuelle aujourd'hui. Je pourrais aussi dire que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable d'émancipation, notamment pour les minorités. Enfin, on l'a vu, c'est plus très nouveau tout ça, mais il y a le hashtag Black Lives Matter, il y a MeToo, qui ont incarné des nouvelles formes de lutte parfaitement singulières. Et donc, ce qu'essaie de faire mon livre, c'est de trouver un moyen de tenir compte de cette ambivalence et de comprendre les effets de la transformation numérique sans renier l'incroyable richesse et l'incroyable variété des instrumentalisations et des usages de la technologie, qu'ils soient bons ou mauvais.
On fait une pause, Charlène Biondi, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Charlène Biondi qui publie Décoder, une contre-histoire du numérique aux éditions Bouquin. Le métaverse, l'avènement d'un monde entièrement virtuel que l'on pourra habiter, où l'on pourra vivre, consommer, se divertir. Vous le voyez comment, vous ?
C'est un sujet qui est en ce moment passionnant parce que c'est un peu le dernier né de la transformation numérique. Et donc, c'est un des thèmes sur lequel se cristallise beaucoup de choses. Genre, je ne veux pas aller jusqu'à dire l'hystérie collective, mais un petit peu quand même.
À la fois des réjouissances, il y a des gens qui disent ça va être génial, et puis il y a ceux que ça angoisse.
Voilà, autant de craintes que de réjouissances, autant d'euphorie. En fait, ça illustre parfaitement l'ambivalence dont je parlais, c'est qu'on est à la fois, on est autant euphorique que terrifié par l'avènement possible de ce métaverse, de ces métaverses dont on n'est pas encore sûr de la forme qu'ils prendront. Les seuls métaverses qui sont vraiment intéressants et qui méritent d'être discutés aujourd'hui, c'est les métaverses qu'on appelle décentralisés, c'est-à-dire qui sont issus de la technologie blockchain. Parce que les métaverses sans blockchain, donc centralisés, au final, ils existent depuis très longtemps. Enfin, les Sims, c'était déjà en quelque sorte un métaverse.
Ou le Second Life. Alors, il faut revenir sur la technologie blockchain qui a permis à la fois le Bitcoin et les NFT. Deux mots sur la technologie blockchain, parce que c'est vrai que c'est une révolution à l'intérieur de la révolution.
Et c'est du coup une technologie qui montre, justement parce que c'est la dernière, qui montre très bien à quel point toute la malléabilité du numérique et la façon dont il peut servir à la fois des discours et des fins qui sont en même temps radicalement opposés. Et parlons du Bitcoin, qui est en fait la première application de la blockchain. Les concepteurs du Bitcoin ont promu Bitcoin au départ, et toujours aujourd'hui, comme une technologie de décentralisation, donc profondément émancipatrice pour l'individu, puisqu'elle est censée permettre de remettre en question radicalement le rôle et la légitimité de toutes les institutions centralisées, donc de l'État aux banques centrales, aux banques commerciales et jusqu'aux GAFAM, puisque l'idée, c'est que le Web3 se passerait des grandes entreprises centralisées du Web d'aujourd'hui, donc Facebook et compagnie.
Donc c'est réaliser toutes les promesses, supprimer tous les intermédiaires.
Exactement, exactement. Et dans ce discours, théoriquement, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la façon dont la technologie a été écrite, dans la blockchain a été créée, cette promesse de décentralisation, elle est évidente et elle est possiblement effective. En même temps, quand on se contente des pratiques et des usages qui prédominent aujourd'hui dans le monde de la blockchain, on se rend compte que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Que le Bitcoin, finalement, n'est pas si décentralisé que ça, parce qu'il y a un nombre très réduit de nœuds qui minent les blocs du réseau Bitcoin aujourd'hui. Qu'ensuite, les crypto-monnaies en général ont conduit à une immense concentration des richesses auprès quelques poignées d'investisseurs. Donc finalement, c'est juste un transfert de pouvoir et de centralisation sous une autre forme de valeur. Et qu'ensuite, les métavers décentralisés dont on parle ressemble davantage à une hyper-marchandisation du cyberespace qu'à une libération du cyberespace qui était promise.
C'est vrai que dans le métaverse, on va acheter des vêtements, acheter des terrains, faire du commerce. Au fond, c'est la loi du marché qui va régner.
C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, dans les métaverses, le métaverse français de Sandbox. Absolument tout peut devenir un actif monétisable. Donc, c'est à la fois la création d'un nouveau marché inespéré et presque sans limite. Et en même temps, si on cherchait la libération au sens le plus commun du terme, on peut être déçu, quoi.
Donc si on vous suit bien, Charlène Biondi, la sphère technologique n'est pas une sphère indépendante de la sphère économique, de la sphère sociale ou de la sphère politique. Et l'idée que l'on se fait de l'humanité, du monde, du vrai, de la justice et de la valeur économique est en train de changer sous l'effet de la révolution numérique, tout comme elle a changé avec la révolution de l'imprimerie ou avec la révolution de la télévision, mais en plus rapide.
C'est ça. Sauf qu'encore une fois, il ne faut pas assimiler le numérique à une simple technique et donc à ce qui serait le fruit d'une révolution des pratiques ou des objets industriels. C'est un peu tout le combat, entre guillemets, de mon livre. C'est de dire que c'est encore plus profond que ça. Le numérique, c'est quelque chose de...
Mais c'était profond, pardon de vous interrompre. L'imprimerie, c'était profond. Ça a donné à la fois le protestantisme, le capitalisme, les contrats, etc., etc. Ça a tout changé. Ça n'était pas qu'une révolution technologique. Et la télévision, je suis sûr qu'on pourrait dire la même chose.
Tout à fait. Dans ce sens-là, l'imprimerie, c'est un parallèle qui pourrait être juste.
Vous, vous trouvez que vous avez changé, personnellement, sous l'effet de la révolution numérique?
Évidemment. On ne fait plus rien de la même façon. C'est un peu la question du livre. Qu'est-ce qui change quand tout change? Mais absolument tout a changé. On ne rencontre plus l'autre de la même façon. On ne travaille plus de la même façon. On ne pense plus de la même façon. On ne mémorise plus de la même façon. Absolument tout dans les pratiques du quotidien, même dans les pratiques les plus intimes de la relation amoureuse. Je veux dire, le texto aujourd'hui, comment on tombe amoureux sans texto? Je ne sais pas, moi. Enfin, ça m'est pas... En fait, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est évident que ce numérique et que ces outils sont en train de tisser quelque chose entre l'homme et le monde, qui est absolument omniprésent. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change une fois qu'on a dit que tout changeait?
Eh bien, je renvoie à votre livre « Décoder, une contre-histoire du numérique ». Ça vient de paraître aux éditions Bouquin. Merci, Charlène Biondi.
Merci beaucoup.
On se retrouve juste après une pause avec Johan Sfar.